Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de cette édition des 12 heures, l'inquiétude grandit dans les territoires de Nyiragongo au nord Kivu. Les habitants de Bugamba et Kiziba évoquent une insécurité qui installe au lendemain du meurtre de deux personnes dans cette zone contrôlée par les rebelles du M23. La traversée du pont Ituri est momentanément suspendue. Les autorités du territoire d'Irumu ne veulent pas assister à des accidents pouvant causer mort d'homme si les ponts parviennent à s'effondrer. Goma ambitionne de porter la couronne des villes écologiques en RDC. Pour y parvenir, elle vient d'adopter une charte destinée à l'aider à atteindre cet objectif. Pour en savoir davantage sur les avantages mis en place, Prince Kiangi, l'un des porteurs du projet, est notre invité. Deux morts et plusieurs bien emportés, c'est la conséquence d'une incursion d'hommes armés dans deux villages distincts du territoire de Nyiragongo. Nous sommes au nord Kivu. Les auteurs non maîtrisés ni identifiés ont agi dans la nuit de mercredi à jeudi. Cet incident plonge les habitants dans une profonde inquiétude dans cette zone contrôlée par les rebelles du M23. Plus d'explications sur l'incident avec John Chibwabwa.
Le premier incident s'est produit vers 23h à Bugamba 1, en groupement des Moudia. Des hommes armés ont attaqué une boutique, emporté des marchandises et tué par balle son propriétaire, un jeune d'une vingtaine d'années. Près de 2 heures plus tard, à Kiziba 1, dans le secteur d'Inefporte, d'autres hommes armés ont fait irruption dans une habitation et tiré sur la propriétaire. Elle a succombé à ses blessures après son transfert à l'hôpital. Des sources locales évoquent également d'autres blessés. Selon plusieurs témoignages, certains assaillants portaient des tenues militaires. Après plusieurs mois d'accalmie, ces attaques ravivent l'inquiétude de la population locale. Les familles des victimes déplorent notamment l'absence de mécanismes judiciaires opérationnels dans la zone où le maintien de l'ordre est assuré par les structures mises en place par l'AFC M23.
En Ituri, l'administrateur du territoire d'Irumu suspend temporairement la circulation sur le pont Ituri situé sur l'axe routier Komanda-Mambasa dans la province portant le même nom. Cette mesure qui prend effet dès aujourd'hui est motivée par des impératifs de sécurité. Dans un communiqué publié mercredi, le colonel Jean-Siron Simba-Bunga explique que cette décision vise à prévenir tout risque d'effondrement de l'ouvrage dont l'état de dégradation est très avancé en attendant sa réhabilitation par l'Office des routes. Une décision saluée par la société civile locale qui estime qu'elle contribuera à protéger les usagers. Comme l'a déclaré d'ailleurs son vice-président Dieudonné Sonny Alumalungai dans un extrait recueilli par Martial Kizabiamungu.
L'état du pont Ituri ne permet pas. C'est pour cela, en attendant la réhabilitation de ces ponts, parce qu'il y a plusieurs tôles qui présentent l'état qui ne permet pas. C'est pour cela, nous demandons au service de Transcom et au service de sécurité de respecter la décision prise par l'autorité territoriale. Parce que ces ponts est à créer des facilités la circulation de la paisible population et leur bien. Et aussi, les ponts est à créer des faciliter les opérations militaires qui sont en cours dans les territoires de Mambasa. C'est pour cela, à toute personne qui va empiéter cette décision de l'autorité territoriale doit être poursuivie par la justice parce que la décision de l'autorité doit être respectée par tout le monde.
C'était donc M. Dieudonné Malangai. Les travaux de modernisation de l'axe Soyom-Voidou se poursuivent avec l'érection des caniveaux et la libération des emprises. Nous sommes dans la ville de Matadi au Congo central. Long d'environ 3 km, ce tronçon est présenté comme une alternative aux embouteillages régulièrement observés dans la ville portuaire de Matadi. Une situation causée en grande partie par l'intense trafic des camions desservant le port et par l'absence des voies de déviation. Les détails dans ce reportage d'Élise Kavira.
Sur le chantier, les engins sont déjà en pleine activité. Pour de nombreux habitants, ces travaux marquent enfin le début d'une solution au problème des circulations qui pénalise quotidiennement la ville. Longtemps dégradée, cette route ne permettait pas une circulation fluide aussi bien pour les motos que pour les véhicules. Le lancement des travaux est ainsi perçu comme la fin d'un véritable calvaire pour les riverains et pour les usagers.
En tout cas, En tout cas, laissez-les démolir pour travailler. Parce que nous, les filles d'Endemba, nous étions très reculées. Même quand un homme venait te raccompagner, il devait s'arrêter loin sur la grande route. Mais désormais, la moto entrera jusque devant les avenues. Vraiment, c'est très bien.
De son côté, l'entreprise Oissy Congo poursuit les travaux préparatoires afin de garantir la qualité de cette future infrastructure. Lutumba Jet, l'un des responsables, explique l'évolution des travaux sur le chantier.
On a commencé à mettre des collecteurs qui vont commencer à recevoir de l'eau. Et là, nous avons commencé avec des fouilles, le terrassé, pour permettre à ce que la route qui sera construite soit de très bonne qualité.
La population matadienne nourrit des grands espoirs quant à cette infrastructure. Selon elle, cette route contribuera à désengorger le trafic urbain en offrant un itinéraire alternatif plus fluide et plus sécurisé. Matadi, Elise Kavira, Radio Okapi.
Nous parlons de notre projet à Kinshasa. Il s'agit du projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine Kin-Elenda qui poursuit son bonhomme de chemin dans sa phase d'encadrement des personnes vulnérables, dans sa mission d'accompagnement social des travailleurs. Les programmes TIMO, ce qui veut dire travail à haute intensité, cité de main-d'œuvre relève les défis du chômage dans plusieurs communes et quartiers de la capitale. Mercredi, qui était hier, a marqué l'étape de la remise des certificats de réussite dans la commune de Kisenso. C'est un reportage de Jean-Marie Kanayimba.
C'est après ce chant d'hymne national que s'est ouverte la cérémonie de remise des attestations de services rendus aux tâcherons, ces travailleurs locaux de la commune. C'est autour des 12h de ce mercredi 29 juillet 2026 que le bourgmestre a procédé à la remise de ce diplôme de réussite, marquant l'étape finale de ce grand projet Kin-Elenda dans son aire de Kinshasa. Dans la salle, travailleurs, experts, encadreurs et autres assistants ont salué de deux mains cet exploit rare réalisé dans la lutte contre l'érosion et les inondations, auteur de plusieurs dégâts en infrastructure routière. Satisfait du travail abattu, le bourgmestre de cette municipalité a remercié le coordonnateur du projet Kin-Elenda pour le sérieux et l'intérêt accordé à cette commune. Il a également encouragé les tâcherons au travail, à l'esprit d'épargne et d'entrepreneuriat, leur promettant de nouvelles opportunités.
Un sentiment de joie parce que le début de ce projet était compliqué. Ça a été une considération et c'est même ça, le développement de notre tâcheron. Nous les avons enseigné l'éducation financière, l'épargne et l'entrepreneuriat.
Pour Gelor Bounouki, expert dans les services TIMO après le travail, place à la remise des outils pour d'autres opportunités de travail, satisfait du travail bien accompli. Entre-temps, le projet Kin-Elenda vise 4 communes de Kinshasa, situées pour la plupart le long de bassins versant est et ouest de la rivière Njili, à savoir Limba, Matete, Kinshasa ou Njili.
Nous restons toujours à Kinshasa où les investissements sont fixés à 2,30 milliards de dollars en 100 jours dans les secteurs de l'électricité au pays. Le comité de gestion de l'autorité de régulation du secteur d'électricité ARE a livré ses statistiques. Nous sommes mercredi lors d'un briefing de presse organisé dans la capitale, la RDC. La directrice générale de cet établissement public explique que cette hausse représente une capacité additionnelle de 2684 000 mégawatts de courant pour les pays. Explication avec Blaise Nongala Mayanda.
En 100 jours, 12 dossiers tarifaires ont été traités contre seulement 4 sur l'ensemble de l'année 2025 à l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Durant cette même période, 18 avis favorables ont été émis pour l'obtention des titres énergétiques et 16 ouvrages inspectés afin de garantir leur conformité aux standards sécuritaires de la RDC. La directrice générale de cet établissement public a précisé que les gains énergétiques obtenus pendant cette période ont davantage été orientés vers les zones industrielles que vers les zones domestiques. Soraya Aziz Moto.
Capacité totale installée en République démocratique du Congo, 2/3 va à l'industrialisation et 1/3 va à la population et au PME. En termes d'industrialisation, ça reste quand même un peu bas par rapport à la moyenne globale parce que le gros de l'électricité va vers l'économie.
Malgré les délestages massifs et les crises de dessertes à Kinshasa, les régulateurs publics s'éhertent à la structure lourde de la Société nationale d'électricité. L'autorité de régulation du secteur de l'électricité intervient principalement sur la conformité réglementaire, mais peine à imposer des sanctions coercitives qui changeraient radicalement la qualité du service sur terrain.
Celui qui voit l'électricité voit de l'eau à Kasadji. deuxième ville de la province de Lualaba, située à 365 km de Kolwezi dans les territoires des Dilolo, fait face à une grave pénurie d'eau potable depuis près de 4 ans. La ville ne dispose toujours pas d'un réseau d'adduction capable de répondre aux besoins de sa population. Les quelques forages publics et privés existants sont pour la plupart hors service en raison du manque de l'électricité. Confrontés à cette situation, de nombreux habitants sont contraints de s'approvisionner auprès des sources non sécurisées et de consommer une eau souvent impropre à la consommation. Des détails avec Paul Munanga.
Cette ville de près de 300 000 habitants souffre d'un manque cruel d'eau potable. Cette situation oblige de nombreux habitants à parcourir entre 3 à 5 km pour s'approvisionner. Écoutons un habitant de Kasaji. Nous buvons de l'eau sale, mais pour avoir cette eau, il faut parcourir entre 3 et 5 km. Et puis le forage qui se trouve à Kasaji ne fonctionne pas faute du courant électrique. Finalement, nous sommes dans quelle province? Le manque d'eau potable dans la deuxième ville du Lualaba suscite de vives inquiétudes par rapport aux risques sanitaires. Cette situation pousse les mouvements citoyens Kwetu Kasaji à monter au créneau pour interpeller les décideurs. Kéline Tambe est le coordonnateur de cette structure citoyenne.
L'eau potable ne devrait pas être un privilège réservé à quelques-uns. Nous lançons un appel solennel au gouvernement provincial du Lualaba, au gouvernement de la République démocratique du Congo et à tous les partenaires du développement, afin que les mesures urgentes soient prises.
Le manque d'eau à Kasaji pose un sérieux problème d'hygiène, freine le développement local et détériore les conditions de vie de la population, estiment les sources sur place. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Merci Paulin Munanga. Une quarantaine de jeunes communicateurs influenceurs de Bunia ont choisi de s'engager davantage dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Réunis dans le cadre d'une session de formation sur la communication des risques et l'engagement communautaire, ils ont été sensibilisés aux modes de transmission de la maladie, aux mesures de prévention ainsi qu'aux mécanismes d'alerte précoce. Cette initiative portée par le Parlement de jeunes de l'Ituri avec l'appui du Centre de coordination des urgences de santé publique vise à renforcer l'implication des jeunes dans la riposte contre cette épidémie qui affecte plusieurs zones de santé. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Le point avec Martial Kizabia Mungu.
Une cinquantaine de jeunes communicateurs influenceurs du Bunia, issus de différentes organisations de jeunesse, ont pris part à cette séance de renforcement des capacités. L'objectif était de les préparer à sensibiliser efficacement leur communauté sur la maladie à virus Ebola qui affecte actuellement 26 des 36 zones de santé que compte la province de l'Ituri. Au cours de cette formation, les participants ont été informés sur les modes de transmission du virus, des signes cliniques de la maladie, les mesures de prévention, les procédures d'alerte en cas de suspension, ainsi que la prise en charge des malades et les processus d'enterrement digne et sécurisé. Pour les organisateurs, cette activité vise à encourager un engagement actif des jeunes dans la lutte contre cette 17e épidémie. À l'issue de la formation, les participants ont exprimé leur détermination à accompagner les efforts de riposte dans leur communauté. Ils recommandent toutefois que ce type d'initiative soit également étendu aux zones les plus reculées touchées par l'épidémie. Bunia, Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
Il est à présent 13h passé des 13 minutes du côté de Mbujimayi. Le diocèse de Kabinda a un nouvel évêque. Le pape François a nommé le révérend abbé Eustache Ntambwe Makoyo à la tête de ce diocèse, annonce la conférence épiscopale nationale du Congo dans un communiqué publié mercredi. Il succède à Monseigneur Félicien Ntambwe, devenu en mars 2024 archevêque de Kananga. Son portrait est signé par Esther Ndalafina.
Âgé de 52 ans, le nouvel évêque de Kabinda, Monseigneur Eustache Ntambwe Makoyo, est un prêtre du clergé local ordonné depuis 21 ans. Né le 14 février 1974 à Musoshi, dans l'actuelle province du Haut-Katanga, il a suivi son parcours philosophique au séminaire Saint-Paul VI de Kabinda avant de poursuivre la théologie au grand séminaire interdiocésain du Kasai à Malolé. Après son ordination en 2005, il occupe plusieurs responsabilités, directeur du séminaire propédétique Saint-Charles-Bourg Borromé, directeur spirituel du petit séminaire Saint-Pie-X et président de la commission diocésaine des liturgies. En 2011, il part en Italie pour approfondir sa formation. De retour au pays en septembre 2025, il reprend ses fonctions dans son diocèse, recteur du séminaire propédétique Saint-Charles-Borromé et du sanctuaire Maria le Notre-Dame de la Paix de Cabinda. Avec cette nomination, le diocèse de Cabinda accueille un pasteur à la fois enraciné dans son terroir et riche en expérience internationale, mêlant rigueur, théologie, expertise liturgique et passion pour la musique sacrée. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'enclave espagnole de Ceuta en Afrique du Nord est confrontée à une urgence humanitaire et sécuritaire après que 1500 migrants ont hanté la ville en traversant à la nage depuis le Maroc au cours de la semaine écoulée, a déclaré jeudi les dirigeants du territoire. Ceuta avec Melilla, autre ville autonome espagnole située en Afrique du Nord, constitue la seule frontière terrestre de l'Union européenne avec l'Afrique.
L'invité.
Transformer Goma en une ville plus verte, plus résiliente et plus touristique, c'est le pari des 70 organisations locales. Elles ont adopté samedi dernier la charte écologique de la ville. À travers cette charte, elles veulent unir leurs forces pour protéger l'environnement au quotidien. Parmi elles, des médias, des écoles primaires, des universités, des entreprises et des associations. Pour en parler, nous recevons Prince Kiyangi, coordinateur de l'organisation Les Écologistes RDC et initiateur de cette charte. Il répond aux questions de Rosalie Zawadi.
Prince Kiyangi, bonjour.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce qui a motivé la conception de ces documents, la charte écologique de Goma?
Je voudrais commencer par exprimer un sentiment de grande satisfaction, parce qu'en effet, il s'agit d'un processus que nous avons entamé depuis 2024. On est heureux qu'aujourd'hui, on puisse en arriver à la signature de la charte écologique de la ville de Goma. En fait, c'est connu que Goma est une ville touristique de la République démocratique du Congo. Mais dans notre constat, nous nous sommes dit, il sera difficile de maintenir ces statuts de ville touristique si les aspects environnementaux ne sont pas pris en considération. Que donc, avant d'être appelé ville touristique, il faut d'abord que nous soyons appelés ville écologique, c'est-à-dire une ville qui respecte les normes environnementales à tout point de vue. Même par rapport à des constructions, il faut que nous respections les normes environnementales. Goma, c'est la porte d'entrée du parc national de Virunga. Le parc national de Virunga, c'est le plus ancien d'Afrique, est reconnu comme un patrimoine mondial par l'UNESCO. Goma, nous sommes à proximité du lac Kivu, un lac qui contient du gaz méthane. Nous sommes au pied du volcan Nyiragongo qui de temps en temps entre en éruption et nous amène des laves dans la ville de Goma et ça emporte des milliers d'investissements. Alors toutes ces menaces mises ensemble, nous avons pensé qu'il fallait prendre des dispositions préventives. Et cette disposition préventive consiste à doter la ville de Goma d'une charte écologique, une charte écologique qui reprend un ensemble de principes sur le plan écologique, un ensemble d'attitudes, de comportements, d'agissements que les habitants de la ville de Goma doivent adopter pour éviter les pires dans l'avenir.
Dans les échanges, vous avez dit que dans la ville de Goma, on enregistre un déficit de civisme écologique. Quels sont les comportements négatifs que vous avez observés dans la ville pour pouvoir mettre en place cette charte?
Je vois un jeune à bord d'un bus qui a pris son nom et puis il jette la bouteille à travers la fenêtre du véhicule. Et il jette la bouteille sur la chaussée. Comprenez les degrés d'un civisme écologique. Il y a des habitants dans différents quartiers, après avoir fait la cuisson, tous les déchets jetés sur la rue. Et quand il pleut, c'est l'eau qui prend tous ces déchets et les amène jusque dans les lacs. Et pourtant, les lacs qui vous, c'est les lacs qui nous donnent de l'eau potable. Que donc, notre vie ici en ville de Goma dépend en grande partie de l'eau qui nous est approvisionnée par le lac Kivu. Mais chaque fois, le lac Kivu est pollué par des comportements de gens qu'il faut décourager. Mais aussi, quand on fait le voyage sur le lac, à bord des bateaux, vous trouvez des gens qui, après avoir pris du jus, ils jettent toutes ces bouteilles sur les lacs. Ignorant que tous ces plastiques accumulés, ajoutés au gaz méthane du lac Kivu, ça devient une menace terrible contre les habitants de la ville de Goma. Vous savez que dans les environs, comme je disais, nous avons le parc national de Virunga. Il y a des habitants de la ville de Goma qui quittent Goma et qui vont couper des arbres dans le parc national de Virunga pour avoir des braises. Et pourtant, le parc, c'est un patrimoine mondial de l'humanité, c'est un bien pour la RDC, un bien pour la province du Nord Kivu, un bien pour la ville de Goma, parce que tous les touristes passent par
la ville de Goma? Pourquoi ne pas protéger Goma? Pourquoi ne pas attirer l'attention de l'humanité sur la ville de Goma?
Quelles sont les actions principales qui sont reprises dans cette charte que la population de Goma doit respecter?
La première des choses, pour la population, il faut planter suffisamment d'arbres. Dans tous les milieux qui ont été déforestés, nous devons appeler notre population à planter suffisamment d'arbres. C'est pas seulement sur la rue, mais aussi dans votre parcelle, là où vous vivez. Parce que votre santé dépend aussi de votre environnement, l'environnement dans lequel vous vivez. Si cet environnement n'est pas sain, vous aurez beaucoup trop de risques sur le plan sanitaire. Mais également, nous demandons à la population de la ville de Goma de ne pas jeter d'une manière désordonnée des déchets. Que ce soit à la maison, que ce soit sur la rue, vous devez jeter ces déchets à des places indiquées. Prenons l'exemple du lac. Mais jusqu'aujourd'hui, si vous allez aux abords du lac, vous allez trouver que c'est plein de déchets plastiques. C'est ça ce que nous appelons l'incivisme écologique. Les gens ne savent pas que par le fait de jeter des déchets plastiques sur le lac, il y a des conséquences. Et des poissons qui sont dans le lac vont en pâtir. Et nous, il faut que nous développions un comportement nouveau écologique pour que nous vivions dans des conditions qui nous permettent d'être en bonne santé.
Prince Kiangui, je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de l'organisation Les Écologistes RDC. Merci.
Merci.
Alors, merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis depuis Nyabushongo, dans la ville de Goma. Ce journal a été coordonné par Élisée Chicote, à supervision de Jean Gandou, mise en nom de Jean-Claude Siala, dans une présentation de Ronéline Tibonera Idi Amin.